Bonjour et bienvenue à Impact Pod, votre clubhouse pour ces 6 nations. Donc moi c'est TK l'Américain de notre petit groupe et je suis très content d'avoir avec moi Charlie Beyer. Salut Charlie.
Salut TK, ouais, ravi d'être avec vous Charlie. J'ai eu la chance de jouer au rugby avec toi mon TK au poste de deuxième ligne que je ne suis pas le seul à avoir exercé ou à exercer dans le pack de potes.
Exactement, et notre deuxième ligne, c'est Théodore de Saint-Rémy, ancien joueur chez Metro Racing.
Oui, salut les gars, salut les potes du pack. Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas, sauf en un seul point, la joie de vous retrouver.
Oui, ça fait plaisir. Écoute, on a plein de choses à se dire aujourd'hui.
Pas que des choses gaies, ouais.
Il y a deux semaines, on était plein de bonne énergie. Cette fois-ci, bon, on sort d'un match un peu difficile. Bien sûr, on va parler de ce match France-Écosse. On va parler de l'Angleterre-Pays de Galles aussi. Mais avant ça, il y avait quelques petits éléments que je voulais regarder ensemble. Numéro un, et je pense que c'est très important, en fait, dans ce sport où on a vraiment des valeurs, je pense que c'est quelque chose que nous, on devrait travailler ensemble, c'est trouver un moyen d'interdire le mulet, cette espèce de coupe de cheveux où c'est court devant et c'est long derrière. Je suis pas sûr, les gars, qu'est-ce que vous pensez? C'est faisable?
Mais on a Hamish Watson qui a une sorte de petit mulet un peu miniature. Moi, il y a juste une définition que j'aimais bien sur le mulet. C'est un de mes copains qui m'avait dit qu'aux États-Unis, il disait « It's business in the front and party in the back ».
Yeah,
Je trouve que c'est pas mal.
Mais il faut quand même dire que c'est pas un peu moche, mais c'est quand même assez moche.
et notre copain, German Kessler.
Bon, lui, il est hors catégorie.
Mais lui...
Parce qu'il avait la moustache en plus.
Ouais. Donc, en plus. Oui, la moustache aussi, c'est quand même à la mode. Moustache, ça va, comme je suis barbu, je laisse passer les moustaches.
T'as une tolérance pour la moustache.
Voilà. Allez, donc pas mal de matchs cette semaine, mais aussi des matchs qui n'étaient pas joués, notamment Irlande-Italie, et aussi France-Écosse-Femme qui étaient annulés à cause de coronavirus.
Ouais, bah, visiblement une joueuse écossaise qui était positive, donc ça a foutu le brin dans toute l'organisation. Ils ont annulé au dernier moment. Et puis les matchs, qui impliquent l'Italie, là, l'Italie c'est carrément devenu un no man's land à cause de ça, et ça va avoir vraiment des impacts, y compris sur la fin du tournoi, puisque comme il y a des matchs qui sont reportés peut-être même à l'automne prochain, le vainqueur du tournoi, il sera connu dans 6 mois. C'est quand même, je pense, une première, et c'est difficile là d'avoir du coup le même enthousiasme que celui qu'on espérait
oui,
avoir.
Oui, oui, c'est sûr.
Ouais, après, si c'est que les matchs de l'Italie qui sont à rejouer, je pense qu'on connaîtra le nom du vainqueur même sans avoir décidé.
Non, pas du tout, parce que les Anglais qui doivent encore jouer contre l'Italie, ça fausse tout. Hein. Ouais. On en reparlera tout à l'heure.
Si vous n'avez pas assez de rugby, ben j'ai découvert avec le Major League Rugby aux États-Unis. En fait, on peut regarder des matchs sur Facebook Live. Et vraiment, j'ai pris plaisir de regarder un match de Toronto contre Colorado Raptors. Et vraiment, c'était un grand plaisir. Je trouve que c'est un niveau de rugby qui est complètement respectable. Ça me fait un peu bizarre d'avoir des présentateurs américains parler de rugby, parce que normalement, j'ai appris le rugby que en France et en français. Donc, je trouve ça assez marrant.
Est-ce qu'ils y connaissent quelque chose? Est-ce que tu trouves qu'ils ont bien commenté?
Bien, en fait, oui, c'est assez marrant parce que s'il y a normalement au moins un Anglais qui, dont chaque fois, il y a quand même un mec avec un accent britannique. Mais oui, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Et surtout, je trouve que le produit sur le terrain, il est pas mal non plus.
Je rappelle quand même que la première fois que tu avais entendu parler du rugby aux États-Unis, c'était dans un épisode de Friends où il y avait un des potes de la bande de Friends qui jouait au rugby et qui était pris pour un fou furieux. C'est ça qui...
ouais, c'est ça.
C'était Ross.
Bah, je pense que j'ai déjà dit, mais mon université, le rugby, c'était connu pour des fêtes assez fantastiques où tout le monde finissait à poil, mais bon.
On voit pas du tout de quoi tu parles, nous, on n'est pas concernés.
Non, du tout.
Ça n'a pas traversé l'Atlantique.
En parlant de fêtes, il y avait quand même de LA Sevens la semaine dernière où c'était gagné par des Sudaf qui ont bien battu les Fidjiens. Et USA a battu la France, hein, USA qui a fini 5e et la France qui a fini 7e dans ce
tournoi. Au Seven, tout est possible.
Donc la France, quand même, pas mal, parce qu'ils sont 4e en ce moment pour les hommes et pour les femmes dans la HSBC 7 Series.
Bah, plutôt pas mal, ouais, plutôt pas mal.
Allez, les gars, quand même, on est là pour parler de même si on n'a pas envie, on est là pour parler de ce match France-Écosse. Are you ready?
Mais évidemment, mais nous, on est toujours chaud. On n'est pas des supporters stupides, donc on a plein de trucs à dire et on est quand même content d'avoir vu du rugby, voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va.
Pack de potes, terrain 10.
Bon, ce dimanche, on a pu voir à Murrayfield la France contre l'Écosse. Ça a bien démarré avec un très joli Flower of Scotland et beaucoup de Allez les Bleus. Mais le match pour les Français, ça a démarré un peu moins bien. Déjà, il y avait Shaw qui était blessé même avant de commencer le match. Ntamack qui rate sa première pénalité, carton jaune pour Crowe pour un plaquage un peu maladroit, Ntamack qui sort pour une commotion, il y a une succession de pénalités importantes, les Français étaient vraiment pas dans leur match. Après quelques pénalités par des Écossais, le 30e minute, une inspiration vraiment après un percé de Jalibert, on voit un coup de pied de génie de Dupont pour pénaux, donc essai pour la France, 7-6. Ensuite, les Écossais sont campés dans notre camp. Il y a un grand bagarre qui éclate. Notre numéro 3, Awas, fait une décision qui n'est pas très propre. Il met un bon droit dans la tête du numéro 6 écossais, carton rouge. Les Écossais profitent pour mettre un essai rapidement par Maitland. 14-7 pour l'Écosse pour la première mi-temps.
Ouais, c'est une mi-temps de... C'est une mi-temps de fédéral, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on s'était pris à rêver d'avoir une équipe de très haut niveau qui avait enchaîné 3 performances. On va sûrement en reparler un petit peu. Mais là, ils ont juste été très moyens. On va pouvoir disséquer un peu tout ça. Et je trouve que la blessure à l'échauffement, les tout premiers gestes du match, etc., on a vite senti que c'était pas notre jour, quand même. Ouais. Pour moi, c'est toujours... J'apporte toujours beaucoup d'attention aux petites choses qui vont électriser dans le bon sens ou dans le mauvais sens les équipes et les situations. Et quand t'as un impact player qui est important pour le groupe, qui se pète à l'échauffement, qui part en boitant, toi t'es en train de faire ta fin d'échauffement avant de rentrer sur le pré, c'est pas bon. Donc onde négative d'entrée. Et ensuite, je sais pas, moi je me suis réveillé à la 30e, j'avais l'impression de pas avoir vu grand-chose. J'ai eu l'impression qu'il y avait un match... une espèce de bouillie de rugby avec beaucoup, beaucoup de fautes de main, de choses pas très intéressantes, pas très belles. Et le bobo d'Ntamack, il vient comme une cerise sur le gâteau amer, on va dire. Parce que très vite, tu te dis, bon allez, Shaq est pas là, Ntamack qui sort, ça va être compliqué.
Bah ouais, moi c'était un peu ça. Il y a vraiment, j'ai pensé à toi et ton amour pour la Fédération Française de la Loose, parce que je me suis dit, putain, le Shaw au début.
C'était un match FFF.
La pénalité ratée, le carton jaune, Ntamack, l'Écosse qui te pourrit un peu en mêlée, tu te dis, bon, on n'y est pas, c'est clairement.
On n'y est pas. Après, c'est vrai que l'essai de Penaud, est vraiment un très joli essai, parce que c'est une action hyper collective, il y a une belle action de Jalibert sur le côté gauche, le petit coup de pied de Dupont est magnifiquement senti, magnifiquement réalisé, et à ce moment-là, moi je me suis dit, tiens, ça y est, ils sont peut-être rentrés dans leur match. Malheureusement, juste après, la bagarre et le carton rouge de Mohamed Awas, c'est le truc de trop. Ce que je trouve, je vais faire mon franchouillard, hein, mais je trouve que l'arbitre est pas du tout intelligent sur sa décision. La bagarre, elle a été assez sale des deux côtés. Moi, j'aurais dit, écoutez les gars, tout le monde se calme, un jaune de chaque côté, et on continue un match de rugby intelligent, s'il vous plaît. Et ça aurait calmé tout le monde. Là, c'est vrai qu'un rouge,
ça change.
Parce que Awas, il en prend une droite. Hein. Donc, il passe un quart d'heure à regarder les images vidéo, et en fait, ils s'en servent pas intelligemment. Ouais. Donc, moi, ça me gâte.
C'est un peu ça qui m'a saoulé aussi. On va peut-être en reparler plus tard, ou d'attendre que Tiki nous raconte la fin du match. Mais sur la bagarre, en fait, c'est... Déjà, ça a duré 1000 ans de tous les angles de caméra, de revoir le ralenti. T'as bien vu que c'était un pugilat global, quoi. Il y avait pas qui a. Soit tu regardes qui est à l'origine ou qui a le mauvais geste à l'origine, mais tu vas pas te faire tout le déroulé au ralenti du truc pour savoir à quel moment un mec a laissé traîner un doigt ou machin. Et il y a un moment. Non, mais c'est vraiment, je trouve, ça fait trop. Et comme tu dis, Awas, avant de s'énerver, d'avoir un geste qui, en effet, ça appartient pas à ce niveau-là. On va plus refaire le. C'est humain certes, c'est pas pro complètement et ça doit plus se voir à ce niveau-là. Mais avant de le prendre, avant de le mettre, il s'est quand même fait bien chahuter, voire. Donc oui, moi je trouve que ça valait pas la peine de se refaire l'action en slow motion avec tous les angles, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même ça mettait un peu d'ombre sur le jeu des Français. On a quand même, c'était 14-7 après la mi-temps. Il y avait un bon début pour la France. On arrive dans leur 5 avant que le fameux Hamish Watson, avec son mulet extraordinaire, mis bien les pattes sur le ballon, parce qu'il a fait que ça dans la journée.
On l'avait repéré, lui, c'est un poison. Là-dessus, c'est vraiment un joueur exceptionnel.
C'est sûr. Et bon, après, vite fait, l'Écosse marque encore un autre essai par Maitland à 44 minutes. La France ensuite récupère un touch, mais le lanceur écossais marque tout de suite après, donc un autre essai pour les Écossais. Les Français, ils ont eu un peu d'orgueil quand même et réussi à marquer un essai par Olivon. 28 à 17 le score à la fin. Bon, moi, je voulais dire bravo pour les supporters, en gros, parce que bon, j'avais l'impression que c'était un stade chaud malgré le froid et le prix. Une victoire vraiment bien méritée par des Écossais. Bon, déception bien sûr pour la France, mais on sort de le terrain avec une défaite qui va peut-être nous coûter cher en termes de blessures. Mais bon, c'est aussi un apprentissage peut-être.
Oui, y a beaucoup de choses dans ce match-là. Je pense que l'équipe où on s'était voilà pris à rêver qu'ils étaient invincibles, manifestement, ils ne le sont pas. Mais les équipes invincibles, ça n'existe pas. Donc tout le monde redescend sur terre. Ce qui est vrai, c'est que sur le prochain match, on a quand même beaucoup de doutes sur la composition parce que entre la commotion de Ntamack, la possible blessure à l'épaule de Dupont, le carton rouge de Hawass. Ça fait quand même déjà beaucoup, sans parler de la blessure de Chat. Donc probablement ces quatre-là, ils peuvent pas finir le tournoi. C'est quand même des joueurs sur lesquels le staff s'était vraiment appuyé. Et moi, il me semble que tout simplement c'était plus le jour des Écossais que celui des Français. Et tout tourne pour eux. C'est-à-dire que carton jaune, c'est vrai un peu sévère, mais tu l'as dit, c'est une sorte de plaquage un peu raté, il a un genou en terre, il fait absolument pas exprès, boum, carton jaune. Derrière le carton rouge, bon, ça tombe sur nous, ça aurait aussi bien pu tomber sur un Écossais. Et puis le petit essai qui nous tue, celui de la 64e, oui. C'est vrai que c'est vraiment pas de bol, parce que on leur pique le ballon, et comme on est un de moins,
contre,
en fait,
on arrive à contre.
Parce qu'on est 14, de ce côté-là, il n'y a pas l'ailier, parce que c'était censé être un ballon pour eux, et donc mauvais rebond qui trahit Dupont, personne n'y peut rien, et le mec qui va prendre, qui va marquer, bon, tant mieux pour les Écossais, tout est tombé de leur côté aujourd'hui, et en plus ils l'ont mérité parce qu'ils nous ont quand même largement secoué dans l'engagement et dans les rucks en particulier, et ça c'est pas de la chance, c'est juste qu'ils avaient plus envie de gagner que nous, je pense que c'est ça qui s'est vu, voilà.
Moi je pense que ouais, comme tu dis Tiquet, c'est un apprentissage en fait, c'est ce qu'on va retenir de ce match, et comme tu dis Théo, ce question d'engagement qu'il y avait peut-être moins en France, je pense que quand Galtier a fait son équipe, on avait tous, évidemment, sans être des génies, mentionner, repérer la jeunesse de cette équipe, enfin, jeunesse en tout cas au niveau des sélections, au niveau de l'expérience. Comme elle était en confiance et que tout marchait, bah, elle avait l'insolence de sa jeunesse, de sa jeune inexpérience, et tout allait très bien, et ils testent, et ils essayent, et ils sont beaux et organisés. Là, on voit que quand ils se font un peu, quand il y a des doutes qui viennent peut-être, oui, du début de match, où ils voient leur impact player se faire mal, ou le fait de se faire chahuter, parce que la guerre des rucks a été forte, bah, tu vois que peut-être l'inexpérience les a un peu rattrapés, et la confiance emmagasinée, une fois la confiance attaqué et qui vacille un peu, ils avaient moins la baraka, moins l'allant qu'ils pouvaient avoir quand tout roulait, quoi. Donc je pense que là c'est...
Oui, et puis je trouve que l'équipe écossaise était globalement dans un bon jour, hein. J'ai trouvé que Hastings, le 10, a été quand même très bon à plusieurs reprises. Stuart Hogg a été excellent, c'est-à-dire que on s'était un peu plein de l'avoir perdu comme joueur de grand talent. Ben là, tout simplement, il s'est rappelé à notre talent. On l'avait un petit peu appelé de nos voeux, pas de bol, c'est contre nous. Il a fait vraiment un très bon match. Et puis voilà, sur l'engagement et sur les rucks, encore une fois, Mitch Watson, on l'avait noté, rappelez-vous, les matchs de préparation de la Coupe du Monde, oui. Moi je connaissais pas ce joueur, on avait tous été un peu éberlués du match qu'il avait fait, bah, il enchaîne ces prestations-là, franchement, chapeau à lui, hein. C'est ça aussi quand même le rugby, c'est d'être capable de renverser des situations entre guillemets données pour perdu. Tout le monde, regarde même... Andy Good et Scott Spedding se bâchaient la dernière fois en disant grand chelem français, patin couffin. Ouais, mais attendez, grand chelem français, faut gagner les 5 matchs, fallait aller gagner à Murrayfield. Ouais. Et là, t'avais juste une bande de mecs en kilt qui ont dit, mais non, vous allez pas gagner ici. Voilà. Et c'est l'apprentissage.
Ouais. Ils ont fait leur brave heart.
Pendant la ligne, là. Qui se finit a cappella, il y a un mec qui a dit peut-être que le fait de finir l'hymne a cappella, c'est une preuve qu'ils savent très bien qu'en fait la cornemuse c'est dégueulasse à entendre. Et voilà, et que pour la fin ils essaient de faire ça bien. C'était... Ça avait fait marrer.
Bah, j'aimerais bien parler un peu de défense parce que je trouve que c'est là où l'Écosse était vraiment fort et je trouve qu'ils avaient un plan d'attaque défensif, si on peut le dire comme ça, mais où le premier plaqueur, il mettait toujours debout l'homme pour créer un maul. Et je trouve que ça marchait à plusieurs reprises en fait. Je trouve qu'ils ont fait un, pardon, ils ont vraiment avait un attaque qui était vraiment très efficace. Ou l'attaque française, ben bien sûr on n'a pas beaucoup vu parce que à 14 c'est pas trop faisable. L'attaque française
Ils ont
avait le moins.
effectivement beaucoup tenu les joueurs debout. Ça s'est vu sur Vakatawa. Dieu sait que c'est pas facile de le tenir debout.
Ouais.
Ils avaient particulièrement, je pense, aussi visé la charnière. Bon, il est sorti très vite, mais Dupont, ils l'ont vraiment empêché de jouer. Et nous, à contrario, on a été un petit peu moins saignants en défense que sur les premiers matchs, hein. Donc, est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? J'en sais rien. Je trouve que sur l'essai qui mettent juste avant la mi-temps, qui est celui qui nous fait très très mal, parce qu'à ce moment-là, on vient de prendre le carton rouge, donc on a un peu mal au casque, on se dit, bon allez, on tient 2 minutes, et puis on se fait la deuxième mi-temps en serrant les dents, et paf, on se reprend un essai là-dessus. La défense en ligne des Français, elle est plus que contestable, et en
Ah, ils vont
particulier
trop vite.
Jalibert, je sais pas trop où il était, mais je sais pas s'il tente l'interception, ou s'il se trompe, ou s'il était dans les vapes, mais cet essai-là, il est pour lui quand même, à mon avis. À part ça, je trouve qu'il a fait un match quand même intéressant. Il a lâché le ballon au pied un peu trop tôt, 2, 3 fois. Mais on voit que c'est quand même un gars qui a des qualités offensives et d'animation qui sont très présentes. Avec Bordeaux Bègles, il est bon à ce niveau-là. Voilà, j'ai trouvé que peut-être sur la vision, la gestion stratégique du match, et en particulier sur le bon timing et les bons choix dans le jeu au pied offensif, on voit qu'il est encore un peu jeune et ça nous a coûté cher.
Je te rejoins un peu dans l'idée que bon, l'Écosse a bien joué. Après, c'est pas des matchs comme on a pu être habitué tristement à en voir dans cette dernière décennie où t'as un peu honte de ton équipe, où tu vois que, enfin, t'as honte de ton
Non,
équipe,
c'est vrai, c'est pas
t'as
le
honte des
cas.
mecs sur le terrain. Et là, c'était pas le cas. Voilà, moi
Non, non,
je
je suis
trouvais que
d'accord.
il manquait peut-être quoi, un mec brillant genre un Teddy Thomas. Dieu sait pourquoi il était pas là. Mais... Non, je rigole. Non, non, mais c'est-à-dire que tous les mecs, il y a eu du courage jusqu'au bout.
Oui.
On va le chercher. Il y a du courage. Bamba, j'ai trouvé incroyable. Il y a des mecs qui
Oui.
sont peut-être un peu plus passés à côté. Ou l'MC qu'on a beaucoup vu depuis le début, il était un peu en deçà, mais il n'était pas. Tout roule, aucun joueur a été mauvais ou ridicule ou catastrophique. Peut-être pris et peut-être un peu désorganisé du coup, et peut-être, mais c'était pas un match.
Faut pas oublier que les grands chelems sont quand même extrêmement difficiles à réaliser, que c'est pas un grand chelem tous les ans, le tournoi destination, et qu'il faut voilà, il faut beaucoup de petits éléments. Alors, sans doute ce sera pour eux une leçon ce match-là, et dans une équipe qui doit grandir, j'entendais dire là, ils ont encore 33 matchs jusqu'à la finale de la Coupe du Monde ensemble. C'est intéressant, je trouve que c'est une manière assez marrante de le dire. Ça peut pas être 33 victoires. Voilà.
Ouais,
Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont retirer de ce match-là, pour aller battre les Irlandais, pour aller battre les Irlandais avec la manière, parce que si on leur met pas 5 points, si on prend pas 5 points en soignant le goal average, ce qui est quand même pas gagné d'avance contre les Irlandais, les Anglais probablement remporteront le tournoi, puisqu'on est à égalité de points aujourd'hui, et que les Anglais doivent jouer les Italiens. Alors certes, ils les joueront au mois d'octobre, c'est pour ça qu'on ne saura pas qui est le vainqueur. Mais j'ai regardé le règlement, c'est au goal average général. Et pour l'instant, on est à peu près kiff-kiff avec les Anglais. Donc faut qu'on fasse, nous les Français, mieux contre les Irlandais que ce que vont faire les Anglais contre les Italiens. C'est quand même pas gagné.
ouais, c'est pas gagné d'avance,
Hein?
c'est
C'est pas
sûr, c'est
gagné. Donc
sûr.
ce qui est pas plus mal, c'est que ça va dégonfler la citrouille de tout le monde. Et c'est cruel de le dire comme ça, mais le sport, la compétition, c'est aussi une école d'humilité, et c'est aussi être un champion que de se relever après des défaites, y compris des défaites cruelles.
Je pense que ça se voyait, qu'ils savaient aussi qu'ils allaient perdre un moment. Je trouve que, par exemple, à la fin du match, ils étaient là, ok, bon, on a perdu, on apprend, on va vers l'avant. J'aimais bien l'effet, ils étaient déçus, bien sûr, Charles Olivon et Fabien Galthié à la fin du match, mais de les entendre avec une telle conviction, je trouvais ça vraiment intéressant.
Oui.
Et c'est. tu sais qu'ils croient réellement dans leur équipe, juste par leur façon de façon d'être ensemble, de façon d'en parler. Et je trouve que ça très riche. Et bon, fallait passer par là, comme tu as dit, Théo, ils ne vont pas avoir 33 victoires. Donc, il fallait perdre un moment. Malheureusement, c'était celle-là, mais OK.
Mais bon, moi, je vais voir France-Irlande le week-end prochain et j'aurais bien aimé que ce soit la finale pour le Grand Chelem, donc ça me gonfle quand même, je vous le dis tout de suite. Je ne fais pas mon analyste froid, ça me gave.
mais moi, ça a tiqué dans les interviews d'après-match. J'avais trouvé... je trouvais qu'il y a de la déception qui transparaissait, qui était évidente, mais est-ce qu'on dit ça après une défaite? Mais il y a quand même une sorte de sérénité, je trouvais. Quand Galtier s'exprime, il y avait pas de voilà quoi, il était emmerdé parce que oui.
Oh, il s'affole pas.
Mais ouais, voilà, exact. Oui, c'est ça le terme.
Et puis,
il s'affole pas, quoi.
Pour retirer du positif, moi je trouve notamment que le fait de ne pas avoir lâché, parce qu'à un moment, quand les essais ont commencé à s'enchaîner, je me suis dit mais attends, ils vont en prendre 40 ou quoi là. J'ai eu une petite frayeur vers la 60e là, quand Vakatawa fait son espèce de faute de main au bord du regroupement, alors qu'Aldrit avait fait un super départ derrière une mêlée et qu'on se reprend je sais pas combien de mètres en retour, et puis l'essai dans la foulée avec la touche ratée là. Là, je me suis dit le dernier quart d'heure va être dur. Donc le fait qu'Olivon à la 75e ou 16e remarque un essai, je trouve que ça prouve quand même que les gars ont des valeurs, qu'ils ont pas renoncé, qu'ils avaient pas envie de figurer trop mal non plus dans ce match. Donc voilà, tout n'est pas à jeter, loin s'en faut. Hein. Et en face, encore une fois, belle équipe d'Écosse, il n'y a rien à dire là-dessus.
On a aussi vu le retour de Penaud aussi, qui a profité pour marquer son essai.
Il n'a pas eu beaucoup d'espace, notamment parce qu'ils ont défendu très fort sur les extérieurs. Et c'est vrai que cette fois, il n'a pas réussi. Et par rapport aux configurations de tous les derniers matchs où les Français nous ont fait rêver, y compris pendant la Coupe du Monde, le truc qu'on n'était plus habité à voir, c'est une entame ratée et insipide. Mmh. C'est-à-dire, pendant les 20 premières minutes, il s'est rien passé. Alors que depuis 4 ou 5 matchs, les Français commençaient leur match pied au plancher, tambour battant, et marquaient très vite.
Ah ouais.
Et du coup, ils travaillaient la confiance. Oui. Alors que là, ils sont mis à douter.
C'est vrai ce que tu dis, parce que dans tous les matchs récents, ils marquent dès le début, en fait, dans les premières 20 minutes.
Tout de suite.
Et ce match-là, d'un coup...
Et là, tout bêtement aussi, le coup de pied de pénalité raté par Romain Tamac, l'en avant assez grossier qu'il fait sur un jeu aérien, tout ça, hop, ça te met du mauvais côté au lieu de te mettre du bon. Et puis, la plot se déroule dans le mauvais sens.
Ouais, c'est ce que je disais sur le fait que jeunesse et inconscience, ça marche bien quand t'es en pleine confiance, mais comme on a vu plein de petits cas comme ça qui ont ébranlé cette assurance, fait que ils sont un peu emmêlés les pinceaux.
Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce match-là. On va pas forcément revenir sur le carton rouge et le bagarre et tout ça, parce que bon, c'était une décision d'arbitre.
Par contre, j'ai quand même une question, parce que je m'inquiète un peu, c'est qu'on a toujours pas reçu de photos de la FFR, et je me demande quel joueur a balayé les vestiaires après le match. Voilà, je suis très inquiet. Je suis très inquiet de ne pas avoir des nouvelles.
Ça, c'est embêtant. Ouais. Ils avaient peut-être moins la tête à travailler les petits coups de com.
Exactement, je pense.
Investigation. Allez, il y avait aussi un autre match ce week-end. Il y avait l'Angleterre contre le Pays de Galles. Donc ce match, l'Angleterre-Pays de Galles, a démarré assez vite avec un essai dans les 3 premières minutes par le numéro 14 anglais. 3 minutes plus tard, il y a une réaction des Gallois assez immédiate avec un très bel essai collectif signé par Tipperary. Il y a un an avant qui commence un autre bagarre dans un match, un grand bagarre collectif. On a eu une petite action de Monsieur Marlar, quelqu'un qui était avant, il avait le comment ça s'appelle ça, les gars, Iroquois.
Une Iroquoise, ouais.
Ouais, ben maintenant il a plus. Bon, ouais, qui quand même.
Non, mais par contre, il aime toujours jouer au chabit.
Ouais, voilà, il a quand même tripoté Alwyn Jones. Bon, on va en parler un peu plus tard. Un match avec, moi je dirais en anglais, beaucoup de bad blood. Vraiment, c'était très rugueux et très, très rude. Les Gallois, quand même, beaucoup de mental, ils disparaissent pas. À 20 minutes, c'est 10-6 pour l'Angleterre. Dans la 33 minutes, Angleterre marque encore par le numéro 15. À la mi-temps, on est à 20-6. Pour la deuxième mi-temps, vers le fameux 61 minutes, là où les grandes équipes commencent à plier les plus petits, on voit Tulagi marquer un joli essai. 33 à 16 pour les Anglais. Mais je pense qu'on savait tous que les Gallois allaient marquer un autre essai, parce que quand même, les Gallois, c'est des dragons, et les dragons sont dangereux. Ça a juste pris trop de temps. Hein. Après que les Anglais étaient réduits à 13 joueurs, le Pays de Galles a quand même réussi à mettre deux essais, mais comme on dit en anglais, too little, too late, Angleterre gagne 33 à 30.
Ouais, je trouve que c'est un score très serré qui est quand même flatteur pour les Gallois, parce qu'on, de ce que j'ai vu, on n'y a jamais vraiment cru. Les Gallois sont arrivés à la fin du match en ne lâchant pas, ils viennent mourir pas très loin au score. Mais en fait, il y a pas eu beaucoup de suspense pendant les 70 premières minutes. Et de ce que j'ai vu moi, j'ai surtout adoré Ben Youngs à nouveau, qui quand il est dans un grand jour comme ça avec un paquet d'avant dominant, il est juste fantastique. Sur les trois premiers essais des Anglais, il est dans le coup à chaque fois. C'est un mec qui est costaud, qui est inattrapable. Franchement, là, je l'ai. Ouais, c'est le demi de mêlée physique et intelligent que j'adore quand il est dans cet état de forme là.
Ouais, moi c'était en effet dès le début, t'as eu un peu le ton du truc où genre à la 30e seconde, Biggar se prend directement une timbale monumentale.
Oui, c'est sûr.
Et au début du match, ils l'ont ciblé clairement et t'as senti que t'avais j'ai vu beaucoup d'engagement. Franchement, il y a eu des phases, notamment une image sur la à la toute fin quand les Gallois pilonnent. Ils sont dans les 5 et font des pick and go, continue. La vitesse à laquelle les défenseurs leur tombaient dessus, ils avaient même pas le temps de prendre le ballon pour préparer leur pick and go, qu'ils avaient 3 mecs sur le rable. Je trouvais ça super engagé. Ça a tapé dur. Moi, j'étais content de revoir Courtenay, il a été bien salissant. Il a fait des beaux grattages. Il a été sec sur ses plaquages.
Il te gêne aussi.
Franchement, c'était un match. Il te gêne aussi, mais en fait, j'avais envie. J'en ai marre de parler de lui. Mais il te gêne aussi. Ouais, il m'a vachement impressionné.
Il y avait même un moment où il avait le ballon en main. Il a couru pendant 20 mètres, 20-30 mètres.
Il a failli
faire un coup de pied à suivre, en fait.
Il avait fait une belle percée. Après, il y a aussi au niveau de cet engagement physique, un truc qui revient souvent, mais on a encore eu North qui s'est pris. Est-ce que c'est semi-commotion, j'en sais rien, mais en tout cas, quand il s'est pris un Tulagi arrivé lancé en plein dans la gueule, ça a fait vraiment mal.
Tulagi, Vakatawa, ces joueurs-là, quand ils sont au centre et qu'ils arrivent lancés, c'est quand même du sale.
Et du coup, ce Norse qui en est à sa 4e commotion, je pense, fait quand même un problème avec le suivi des commotions chez les Gallois, parce que c'est super récurrent chez eux et c'est un truc
comme Dan Biggar, hein, c'est très borderline aussi, et là-dessus il les compte un peu comme ça les arrange. C'est un peu pathétique parce que on l'a quand même beaucoup dit, il s'agit de la santé des joueurs et les mecs eux, ils sont à fond dans leur carrière, ils ont envie d'y croire, mais c'est pourtant pas un sujet rigolo. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je les trouve plus que légers sur le sujet, et comme d'habitude l'IRB est légère aussi, met en place des règles, et puis ensuite le président de la Fédé galloise, c'est mon pote, vas-y, on s'en fout, c'est lui qui gère.
Ah, c'est un peu de ça, tu sens que c'est au petit bonheur la chance et que c'est pas forcément pensé pour le c'est forcément pensé pour les joueurs. Mais après, de façon plus globale, donc moi, sans parler des petits bobos, moi j'étais aussi, il y a un joueur que j'étais super content de retrouver, j'ai trouvé à un bon niveau, Navidi, qui m'a fait vachement plaisir sur ce match. Et il y a eu vraiment des, ça me faisait plaisir de le retrouver. Je dis pas ça parce qu'on a les mêmes goûts capillaires.
Alors là, on sait que tu mens un peu, parce qu'on beaucoup. Sait que t'es forcément, tu ne peux pas être objectif vis-à-vis d'un Dre 2, on le sait très bien. Donc n'essaye pas de le préciser.
Il y a une confrérie.
Au moins, c'est pas un mulet.
Est-ce qu'on pourrait tenter, en stratégie capillaire alternative, ce qui est ta spécialité et pas la mienne, Charlie, est-ce qu'on pourrait tenter le mulet Dre 2? C'est une vraie question, je pense qu'on pourrait peut-être...
Alors, figure-toi, mais attends, pendant la Coupe du Monde, on a vu ça. Je crois que je l'avais relevé, un mec qui avait un mulet de dread.
Tu nous le trouves, s'il te plaît, on le mettra sur le Facebook pour nos écouteurs.
Ah, faut que je le retrouve.
C'était Raka.
Faut que je le retrouve, c'était magique. C'était Raka, qu'est-ce que c'était moche. Oh, il était pas très long, mais...
Je pense que t'as raison, là, Charlie, par rapport à... Ils ont vraiment ciblé Biggar, il y avait aucune question. Il tapait la balle bien dans l'air pour donner plein de temps pour deux.
Ouais, c'est ça.
Chaque fois, il était frappé par deux Anglais, arrivé plein de balles. Ouais. C'était impressionnant, quoi. Et je pense que j'ai déjà décrit des Anglais comme des méchants dans un film des années 80. Et mais c'est vraiment ça, en fait, parce que là, c'est presque comme le méchant, au playground. Tu vois, qui pousse le gamin qui est plus petit, Et voilà, l'autre gamin qui se bagarre.
Qui joue
fou,
dirty, quoi.
Il essaye de faire quelque chose, et le grand qui juste, il rigole, il le repousse par terre.
Moi, je les vois plutôt comme des méchants de films historiques, tu vois, des Anglais de la guerre de 100 ans, tu vois.
Yeah.
Avec la masse d'armes, l'armure qui fait du bruit, tout le machin, et le côté militaire un peu plus nombreux, puis on va vous marcher sur la gueule. Ouais, c'est ce petit côté-là.
Bah, tu sais, dans les films Hollywood, si on veut un méchant, on le donne un accent anglais, quoi. Donc.
Mais nous, avec Charlie, on fait pas la différence, donc ça nous dérange pas.
C'est vrai. Un méchant raffiné.
Ouais. Ok, mais quand même, il faut dire que ça c'était un vrai match à regarder quand même, parce que c'était un plaisir.
Ouais,
t'as raison, c'était l'Angleterre avec quand même la main dessous, mais pas comme Irlande. Aujourd'hui, je trouve Angleterre. Je suis étonné qu'on a pu les battre, parce que quand tu vois la façon qu'ils ont joué contre Irlande, ils avaient le match complètement en main, et ce match aussi, l'Angleterre était vraiment très fort. Et t'as raison, Théo, tu disais le score c'est un peu flatteur pour les Gallois. C'est exactement ça, parce que ils avaient le match en main depuis très longtemps en fait.
Tiki, en effet, c'est un match très agréable à regarder, mais pas seulement agréable à regarder au niveau du jeu, c'était aussi très drôle à regarder, parce qu'encore une fois, on peut pas se quitter en parlant de ce match sans mentionner notre Joe Marler, qui nous régale à chaque fois avec des petites anecdotes, qui est très rugby, quoi, mais très rugby, pas de club, quoi, d'ancien terroir. Et pendant la petite générale là, que t'as mentionné tout à l'heure, pour calmer le jeu, pendant que les esprits s'échauffent, peut-être le sien s'est chauffé un peu trop, je ne sais pas. Mais il a, je sais pas comment le dire, il a caressé le sexe de Alun Wyn-Jones. Nous, en France, on appelle ça un chabit.
Oui, et ça, mais ça veut dire quoi exactement? C'est pas un gros mot?
Ah non, chabit, en fait, tes enfants, ils ont déjà dû jouer à chat dans la cour. Donc, c'est toucher l'autre, en fait. Sauf que le chabit, c'est toucher l'autre, mais sur la bite. Voilà, tout simplement.
Ah,
et
d'accord.
Et c'est une discipline. Hein. Il me semble qu'il y a une fédération de chabit, etc. Il y a plein de trucs. C'est une discipline très ancienne. Mais en général, on joue à ça à la troisième mi-temps quand on est bourré. Quoi. On joue pas sur le match avec les caméras en pleine bagarre générale et le faire à Alun Wyn-Jones en plus. Faut avouer que c'était quand même assez créatif.
Ouais, complètement. Au plus, le mec est choqué, quoi. Mais par contre, pour la petite minute culture, Laurent Deutsch, ça venait des guignols de l'info. Pour tout savoir, Ticket, c'était le personnage de Chirac qui faisait le chabit. À chaque fois qu'on lui parlait de problèmes de politique, machin, il détournait l'attention en faisant chabit. Et voilà, c'était. Et bizarrement, les Français ont beaucoup aimé ça, c'est resté, il y a une fédé qui s'est créée, et voilà.
Ce que je trouvais un peu pathétique, c'est que ça a pris des proportions
infernales.
Donc là, ils sortent le règlement. Donc effectivement, comme disait Daniel Herrero, le rugby, il y a 580 règles, dont 540 de trop, quoi, un truc comme ça. Et il y a des règles sur le fait qu'on n'a pas le droit de viser la nouille de son adversaire ou ses petits grelots non plus. Et du coup, là, ils sont en train de parler d'une sanction qui pourrait aller jusqu'à X mois, X semaines. Bon, ok.
Ouais, 12 semaines et 4 ans.
Entre 12 semaines et 4 ans pour un chabit, franchement, c'est grotesque.
Mais moi, je trouve que ça rend l'affaire encore plus drôle, le fait qu'il y ait des articles, que ça prenne une dimension sérieuse, que des mecs qui vont se retrouver dans des bureaux en traitant du cas. Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Il lui a quand même touché la bite, c'est génial. Moi, je trouve ça encore plus drôle. Il y a des mecs qui écrivent des articles là-dessus, quoi. C'est
Thierry, est-ce que tu pourrais nous traduire chabit en américain, s'il te plaît?
Oh, I don't know. tag, dick tag.
Dick tag, ben voilà. Je pense qu'il faut proposer la fédération américaine de dick tag et tu peux être à l'origine d'un truc.
Je pense pas. Ouais, non, je pense pas. Mais en fait, c'est vrai, mais ma question c'est lequel est le pire? C'est donner un grosse droite dans le visage de quelqu'un ou tripoter un petit peu pour histoire de calmer le jeu?
En fait, c'est une question philosophique.
Alors, sur les terrains, moi en tout cas, je préfère des trucs nuls qui énervent beaucoup plus, mais parce que c'est agaçant en fait. Enfin, il y a aussi le doigt dans l'oreille, tu vois, le mec te parle, tu lui mets le c'est nul, tu vois, mais le mec s'énerve. Et ce qui est très drôle, c'est ça m'était arrivé une fois comme ça de tomber sur un pilier où je lui mettais à chaque fois dans les oreilles des petites baffes, mais des limite des caresses de joue. Et le mec était venu vers moi à la mi-temps, mais énervé, mais il me dit mais putain, si tu veux me faire quelque chose au moins, mets-moi des droites, quoi, des vraies droites, soit en mode. Et je fais non, moi je suis amoureux, c'est comme. Mais le mec il montait en pression et ça fait partie de l'ascendance psychologique, quoi, ou quoi. C'est peut-être des grands mots pour un chabit, mais
On va voir. En tout cas, j'espère que ce pauvre Mahler qu'on aime bien
Ah ben oui.
va pas se retrouver suspendu 6 mois pour ça, parce que ce serait quand même assez
Ouais.
ridicule.
Ouais.
Ceci dit, il a quand même un peu pété les plombs, et faut être honnête, si sur un terrain de rugby, dès que les mecs sont à moins de 30 cm, tout le monde joue à chabite, ça ressemble plus à rien non plus.
C'est
Donc,
ça vite devenir.
il faut quand
C'est un
même,
autre sport.
bon, c'est un autre
C'est un autre
sport.
sport. Bah, en fait, j'aimais bien sa réponse sur Twitter. Il disait juste bollocks. C'est tout ce qu'il a dit.
J'avais
Je
même
trouve
pas
ça,
vu
mais.
ça.
Oui, et je trouve ça génial
Qu'est-ce
comme
qu'il est con,
réponse.
c'est incroyable.
Bon, monsieur Marleur, on vous aime bien. Si vous parlez le français, on vous aime beaucoup. Bon, les
Et
gars.
on rappelle quand même que c'est ce Joe Marler qui a été, lors de la défaite au Stade de France, offrir son maillot à Mohamed Awas pour sa première cape, parce qu'il ne le connaissait pas. Pour lui, c'était son premier match France-Angleterre, etc. Et quand il a voulu lui rendre l'appareil en lui offrant le sien, il lui a dit non, c'est ta première, tu la gardes. Ce qui est tout à fait élégant, nettement plus que son geste contre les Gallois.
Donc il peut être très con et très classe.
Exactement.
Ouais, exact.
L'apanage des grands.
Je peux pas, j'ai pas de potes.
Bon, même si on n'a pas eu Irlande contre Italie, il y avait quand même Portugal contre Géorgie, n'est-ce pas, Charlie?
Oui, absolument. J'étais envoyé spécial à Jean Bouin, que je connais bien, pour aller voir ce Portugal-Géorgie. Exceptionnel Portugal-Géorgie à Paris. Et pourquoi, me direz-vous? Eh ben, c'est la fédération portugaise qui a eu cette idée de délocaliser ce match, donc le Stade français a prêté son terrain de Jean Bouin gracieusement pour l'occasion, parce que en vue de la Coupe du Monde 2023, auquel le Portugal aimerait beaucoup participer, ils essayent de draguer un peu leurs joueurs expats, tous les descendants de Portugais qui vivent en France et qui jouent plus au rugby en tant que Français, du coup, que les Portugais. Et du coup, c'était un peu une opération séduction, quoi. Et cette opération séduction était pour le coup plutôt réussie. Il y avait, je crois qu'il y a eu 2000 personnes par là. C'était un match vraiment plaisant à voir. Il y a eu, alors le score final était de 39 à 24. Il y a eu beaucoup d'essais. C'est les Lelos géorgiens qui ont gagné sur les Lobos portugais. Et en vrai, la vraie surprise, c'était que les Portugais ont bien tenu ce match, hein, jusqu'à 10 minutes de la fin. Ils menaient même 24-22. Et ils ont tenu la dragée haute en mêlée. Ils ont tenu la dragée sur. J'étais épaté parce qu'on avait vu la Géorgie pendant la Coupe du Monde. Et c'est une nation qui a des avants traditionnellement assez forts. On dit souvent, tous les mecs qui jouent un peu en fédéral ont sûrement la nuque qui tremble un peu à l'évocation des Géorgiens avec des souvenirs des piliers qui sont croisés. Mais en tout cas, ils sont connus pour être un peu avant, et les Portugais ont réussi à contrer même les ballons portés, ils arrivaient à les contrer. Enfin, les Portugais ont été assez surprenants, mais ils ont craqué sur la fin.
Je rappelle que les Portugais avaient affronté en 2007 lors de la Coupe du Monde en France, les All Blacks quand même, au Parc
Les
des
All Blacks,
Princes.
absolument. Et qu'il leur avait mis un
Il y avait
essai.
un Portugal All Blacks, et moi j'avais un copain qui jouait à l'époque, un dénommé Da Silva, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné qu'il n'était pas All Black mais portugais. Et il avait dit, voilà, maintenant qu'on a joué contre les All Blacks,
On peut
on peut mourir.
partir.
Ouais. Et avant, il avait dit, on va être motivé comme des fous, on va y aller pour se fissurer la cabine, ce qui n'est pas conseillé. Mais je me rappelle,
Ah,
j'avais
c'est une
noté cette
super
expression
expression.
qui m'avait fait rire.
Bah moi en plus j'ai eu la chance à propos d'ancien joueur, j'ai eu la chance de c'est mon pote Saba qui m'a fait venir à ce match. Son père était un international géorgien et jouait à Toulon. Et du coup j'étais un peu entouré de géorgiens, anciens joueurs. Après on est allé parler avec les joueurs et tout. Je t'avoue que j'étais content de serrer des paluches, mais j'ai un peu tremblé parfois parce que quand je les vois arriver avec leurs grandes mains, mais c'était très agréable. Et en plus comme quoi je suis complètement impartial et ouvert à tous, parce que j'étais aussi, je fais aussi une petite dédicace à mon pote Tom, Lacarpe, que vous connaissez sous tuteur peut-être sous le nom de Totozinho, qui est d'origine portugaise, du coup, qui était venu les supporter, et étrangement aussi, allez savoir pourquoi, un supporter du Racing. Donc, c'est que.
Pourquoi tout est possible?
Comme quoi, tout est possible, et il y avait du beau monde pour un beau match, et j'espère que le Portugal va réussir la mission qu'elle s'est donnée d'aller faire cette Coupe du Monde chez nous en 2023, chez leur voisin cousin.
Alors on va se donner À mon avis, une petite mission. On fera un petit point qualif du Portugal régulièrement dans Pack de Potes, parce que ce serait très sympa d'avoir les Portugais à la Coupe du Monde en France. Donc on va suivre ça, d'accord, Thierry?
On va créer des hashtags et tout, ça va être formidable.
Ça, c'est une bonne idée. Charlie, j'avais une question barbe, parce qu'on a dit pendant la Coupe du Monde, quand même, Georgie, c'était vraiment l'équipe le plus barbu. Est-ce que c'est toujours le cas?
C'est toujours le cas, et en plus, ils ont une barbe dense et très belle. C'est un beau pays de barbe, hein. Et de rugby aussi apparemment, puisqu'ils ont gagné ce match-là.
Bah, parfait. Si un jour on a genre Portugal et Géorgie qui veut entrer dans les six nations, est-ce que on pourrait avoir un six nations mais qui va dire peut-être huit nations mais qui dure aussi en octobre par exemple, qu'on a une première phase comme on a aujourd'hui et après une deuxième phase en fin d'année.
A priori, ce qui était, il m'avait semblé avoir lu, ce qui était envisagé dans les projets de faire venir le Japon ou l'Afrique du Sud, des projets de grand génie sans doute, c'était plus d'aller taper dans les cases internationales de juin, par là. J'avais lu sur les trois matchs qu'on a normalement, donc c'était plus ça de. Apparemment, donc ça voudrait vraiment plus rien dire parce que le charme du tournoi, c'est quand même un peu la pluie, la boue. Enfin, t'as un peu ce côté-là dans l'idée du tournoi que tu vois, qui était cinq nations avant, que tu vois depuis longtemps. T'avais un peu ce combat-là et je trouverais ça bizarre de. Ça ferait bizarre un match en été.
On n'en est pas là, mais je crains effectivement que ceux que j'appelle les foufous du sport business continuent de nous dénaturer le truc. 5 nations, c'était bien. 6, c'est pas mal. 7, 8, 9. Puis après, combien, en fait? On s'arrête plus. On joue tous les week-ends les matchs internationaux, plus tous les week-ends les matchs. Enfin, là, c'est aussi le sujet, après, de la course à l'échalote, d'avoir toujours plus de matchs pour faire toujours plus de pognon. Mais c'est quand même la santé des joueurs dont il s'agit. Donc moi, j'y suis plutôt opposé, de même que je suis plutôt opposé à l'arrivée de fonds de pension XYZ qui sont un petit, enfin voilà, dont les motivations sont forcément purement financières, et on sait que voilà, la finance fait pas toujours bon ménage avec l'éthique. Donc je suis circonspect. J'espère qu'on n'aura pas un jour des matchs du tournoi des 12 nations au mois d'octobre.
D'accord.
Bah, ce serait encore, pour le coup, parce qu'on en parlait par rapport à la Géorgie, moi je trouve que ce serait plus justice et sportif de faire un système ou de montée ou de descente, même si ce serait dramatique pour ce qu'est le tournoi de destination. Mais l'un dans l'autre, si tu veux faire venir de nouvelles personnes, fais un système de montée et de descente. Aucune nation l'acceptera, évidemment, parce que c'est une machine Afrique pour les six fédérations qui font partie du tournoi de destination. Mais la vraie équité pour voir des nouvelles têtes dans ce tournoi, ce serait de faire un système de montée et de descente.
Oui, c'est vrai. Mais parle pas de ça à Thierry, parce que dans le sport américain, ils savent pas ce que c'est.
Ils n'ont que
des ligues fermées, parce qu'il faut que, pas, il faut que le business soit prévisible.
Voilà. Si t'as dépensé tes milliards pour avoir une équipe, bah, il faut que ça reste. Il faut que ça reste là. Il y avait quand même un dernier match pour nous ce week-end. C'était les U20.
Oui, bah, les U20, contrairement à leurs grands frères, ils ont été gagnés en Écosse. Avec, a priori, un gros match de Jordan Joseph.
C'est un beau bébé, lui, quand même. Hein.
Ouais, une des futures stars annoncées du rugby, s'il confirme, hein, parce que on en a eu beaucoup des annoncés qui n'ont pas confirmé, mais c'est un magnifique joueur qui joue au Racing, d'origine haïtienne, ce qui est assez rare et on peut le souligner. On n'a pas beaucoup de sportifs issus d'Haïti, qui est un pays qui a tout plein de problèmes, mais qui est un pays avec des francophones et des sportifs de talent. Jordan Joseph en fait partie. Et ils ont gagné 29-20, ou je sais pas quoi.
29-22, oui. Oui,
29-22.
J'ai noté que la France est quand même deuxième dans les classements, avec 2 victoires et 2 défaites, et juste derrière l'Irlande, qu'ils ont gagné tous leurs matchs, qu'ils ont gagné, on va dire, dans leurs 3 premiers matchs, et la France, ils ont joué 4 matchs. Donc, Irlande, apparemment, ils sont bien partis pour gagner de 6 nations.
Et puis, bien partis pour continuer à nous emmerder s'ils ont une belle équipe de jeunes.
Oui, voilà.
Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on va quand même essayer de taper les Irlandais à domicile pour finir le tournoi sur une bonne note. Hein.
Alors, petit news flash dans le monde de rugby, ce match n'aura pas lieu finalement ce week-end parce que c'est annulé à cause de la pandémie du coronavirus. Donc finalement, ça va être le week-end du 31 octobre, mais vous inquiétez pas, le Pack de Potser est là pour vous la semaine prochaine avec un autre épisode, donc revenez la semaine prochaine quand même, où nous allons faire le bilan sur ce tournoi de 6 nations assez inhabituel. Donc, merci nos chers écouteurs, que j'aime bien dire, parce que notre petit podcast qui a démarré il y a 6 mois environ, prend de plus en plus de envigure.
Magnifique, l'envergure.
Ouais, envigure. Et franchement, ça, on ne pouvait pas le faire sans vous. On est plus de 1000 écoutes par épisode en ce moment. Ça fait vraiment plaisir. On a un peu plus de personnes qui sont abonnées. On avait un très bon Albert Lactique ce week-end, samedi, dans l'Est républicain. Donc, si vous voulez... lire ça, donc vous pouvez aller sur internet pour le trouver. Vous allez voir une photo, donc j'ai eu beaucoup de remarques que moi je suis quand même pas petit, j'ai 1m87, mais j'étais au milieu de ces deux géants. Parce que Théo, tu mesures combien toi?
200 cm.
200, 2 mètres. Et Charlie,
le système métrique c'est 1,96, moi 196 cm.
Ouais, d'accord. Donc il disait, mais Thierry, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce que j'étais dans un trou ou quoi? Parce qu'à côté de vous deux, je suis tout petit. Donc je vous invite d'aller lire cet article sur notre petit podcast qui est vraiment à la base c'est un pacte pote, parce qu'on aime bien parler de rugby, on est des amis et on est tous des avants, on adore ça. Donc si vous pouvez nous écrire un petit review, nous donner un note sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, où vous écoutez vos podcasts, ça nous aide. Écrivez-nous un petit mot sur Instagram, Twitter et Facebook, ça nous fait plaisir, et le plus important c'est de revenir la semaine prochaine.
Mais ça me semble être une conclusion parfaite, Thierry.
Juste ticket avant qu'on se quitte, je voulais juste dire un petit mot sur le fait qu'on n'ait pas parlé de rugby féminin dans cette semaine. On avait habitué nos écouteurs à la présence d'Alban pour débriefer un peu. Là, bon, on n'avait pas de match à commenter et ça tombait pas mal du tout parce que Alban ne pouvait pas. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Mais je tenais quand même à lui faire un petit coucou parce que j'ai eu la chance hier au fin fond de la noirceur d'une nuit parisienne comme ça sur une péniche. Sur la scène, j'ai rencontré les Pink Rockets, ses coéquipières, et on a parlé d'elles, et ça m'a fait plaisir. C'était un chouette moment.
Tu t'es tenu correctement, Charlie? T'as représenté le pack de potes avec dignité, classe.
Défini dignité, parce que avec joie et entrain, en tout cas.
Parfait, voilà. C'est déjà très
voilà.
Bien.
Mais et j'ai tenu à peu près debout, donc voilà, tout allait, tout était
parfait.
Bien.
Donc, les gars, merci beaucoup pour cet épisode. N'oubliez pas d'aller écouter notre épisode bonus sur le rugby féminine avec Alban et Charlie. On a eu des très belles échos, des très belles retours, merci. Allez, bonne semaine à vous, les gars.
Bonne semaine, les copains. Remettez-vous bien de ce triste dimanche. Et on se retrouve avec enthousiasme.
Bah oui, et puis le week-end prochain, on va essayer de faire mieux. Voilà.
Ciao, les copains.
Parfait. Allez, ciao, les gars.
Salut, bye bye.
Bonne semaine.